29e numéro de Comedy News Weekly Podcast, ou comme tout le monde l'appelle, CNWP. Les jeunes ne disent que ça dans la rue.
Pas vrai, attends, Anthony Mirelli.
J'ai vu des t-shirts avec hashtag CNWP.
Sérieux?
Sur des t-shirts, ouais.
J'ai l'impression que t'en fais un peu trop avec les hashtags.
Moi?
Ouais.
Je donne ce que le public veut, moi. Je vis pour donner. Je vis pour donner. Personne ne prend,
non.
Mais je vis pour donner, donc.
Wow, on dirait le titre d'un très mauvais film de cul sur la masturbation. Voilà, ça fait combien de secondes c'est commencé? Moins de 45.
C'est bien, c'est que si quelqu'un a appuyé comme ça au hasard, il dit « Ouais, non, je sais c'est quoi. » C'est hashtag CNWP.
Voilà, c'est très hashtag connu, ça. Je vais passer au sketch. J'avais vu le sketch de Justin Timberlake avec Jimmy Fallon.
Les hashtags?
Où ils se mettent à parler trop en hashtag. Et en fait, c'est juste eux qui s'emballent de plus en plus jusqu'à ce que t'es...
On est là-dedans maintenant.
Ouais, de Questlove, de Roots qui arrive dans la pièce, qui fait hashtag shut the fuck up.
Et puis, ils en ont fait un avec Jonah Hill et c'est Scorsese qui vient.
Ah oui?
Pour dire de Star.
Ouais. Tout ça pour dire que tu connais Martin Scorsese.
Ouais. J'aimerais bien qu'il ouvre la porte, là,
qu'il dise « ferme ta gueule ». De toute façon, t'aimerais que n'importe qui ouvre la porte et me dise « ferme ta gueule ». Scorsese ou pas, il n'y a pas de problème. Bon, cette semaine, qu'est-ce qui se passe dans le valeureux monde de la farce aussi violent que Game of Thrones?
On sent que la farce, ben, elle a envie de faire une pause.
Oui?
Ouais.
Ah, c'est plus tranquille cette semaine?
Ouais. C'est pour ça que GQ est arrivé avec un numéro spécial humour.
Hein, pour plus prendre toute la place.
Ils ont un numéro, chaque année ils font plus ou moins ça. Ici il est un peu moins important, c'est pas que l'humour.
Mais GQ France?
GQ États-Unis.
Ok.
La couverture c'est Louis C.K. Comme ça ils se trompent pas.
Ouais.
Ils sont dans le bon, je pense.
C'est une valeur sûre.
Voilà.
T'as dit ça en fait, j'ai vu un délai, puis je me dis putain, faut absolument que j'aille l'acheter.
C'est disponible sur iPad aussi, hein, si vous voulez. Et même en ligne, on sait lire les articles. Je comprends pas comment ils font la presse aux États-Unis où tous les articles sont dispo gratos.
Je pense que ce qu'ils font, c'est faillite.
Tu crois?
Bah, t'en as blindé. Et t'en as qui avait essayé ça? C'est pas le Times?
Je sais pas.
Ou le Weekly, quelque chose.
Newsweek.
Newsweek, c'est ça, qui avait essayé.
Sur iPad, ouais.
Puis après ça, ils ont dit.
Ils sont revenus.
Nope! On va remettre du papier dans tout ça.
Mais ouais, c'est bizarre. Mais bon, ça, pour nous, c'est intéressant parce que. Vous pouvez trouver tout ça en ligne. Il y a une longue interview de Louis C.K. Il y a une interview de John Oliver qui commence son show cette semaine. Et il y a une interview de Julia Louis-Dreyfus.
Oui, qui était aussi en couverture du Rolling Stones il n'y a pas très longtemps.
Oui, elle est à poil avec la déclaration d'indépendance dans son dos, en tatouage.
Ouais.
Et ici, elle drague un clown dans une soirée. Il y a 4-5 photos. La photo d'après, elle est à poil et il y a un clown sur elle qui est en train de la baiser.
Ok.
Et après, le clown s'en va, elle est en peignoir avec des chaussures de clown.
Oui.
Et après, c'est une photo de famille où elle a un bébé clown.
Et là, en voyant ça, Sarah Silverman a fait « Hey! »
Mais c'est moi qui faisais ça avant.
C'est ça. Pourquoi est-ce qu'elle vieillit puis elle prend ma place?
Ah putain, elle est bien en plus.
Ben c'est fou parce que quand tu la vois maintenant, tu dis quand elle était jeune, elle devait être canon. Puis tu regardes un vieil épisode de Seinfeld, puis tu dis.
Une veste 4 fois trop grande.
À fond, et ses robes avec ses chaussettes blanches dans ses sandales.
Ouais, mais elle est bien. Franchement, il faut regarder VIP. Je sais pas si tu regardes, mais il faut parce que c'est juste hilarant. C'est juste dingue. Et
toi qui commences à utiliser l'expression c'est juste hilarant et juste dingue, c'est que t'es à bout de vocabulaire là.
C'est vrai?
Ah oui, mais ça c'est
mais
un truc.
C'est pour plaire aux jeunes. Chut. Je devrais même dire c'est hashtag juste dingue.
C'est drôle parce que la façon de dire pour plaire aux jeunes, il y avait un petit côté pédophile.
C'est vrai, c'est peut-être parce que je l'ai chuchoté.
Ouais, c'est pour
et
plaire
faudrait jamais
aux jeunes. Dès que tu dis plaire aux jeunes, faut pas le chuchoter, ça c'est sûr.
Ok. Mais je suis coincé là du coup, qu'est-ce que je dois faire?
Ben écoute, moi ce que je vous. Si vous voulez voir à quel point tout a l'air pervers quand c'est chuchoté, au resto la prochaine fois, quand on vous demande ce que vous allez manger, répondez en chuchotant. Alors en entrée, je vais prendre un carpaccio de bœuf. Et c'est important de souffler un tout petit peu
entre les mots.
Ouais. Je vais prendre un carpaccio de bœuf. Et si tu peux saccader le souffle. Saccader le souffle, qui était le nom de mon groupe quand on faisait. On avait un quatuor d'accordéon au Québec à l'époque. Saccader le souffle. Saccader.
Tu jouais du chat ou de l'accordéon? T'es tiré un chat comme ça?
T'es tiré un chat. Hashtag soupirer ses pervers.
Bon, on passe au...
À la suite. Gros, mais tu nous as dit qu'on interview, qu'ils ont interviewé Louis C.K. Par contre, tu nous as pas dit qu'est-ce qu'il disait dans l'interview
de
Louis C.K.
Parce que j'ai pas eu le temps de lire dans le métro. C'est vrai en plus.
Oh,
donc
man.
Je préfère ne pas m'avancer.
On pourrait faire un live read tweet podcast. Hashtag.
Pendant que je lis les articles.
Vas-y, lis l'article. Tu l'as sur ton iPad?
Non, pas ici.
Dude.
Je suis venu qu'avec le top 15. Ouais, voilà.
Moi, je me fie sur toi pour bosser dans ce podcast. Et si moi, je me mets à bosser à ta place, ça va pas du tout.
Je sais, j'ai un peu honte. Je me sens...
J'ai un peu honte.
Bon, on passe au top 15 ou pas? J'ai même pas parlé du top 15 avant, en fait.
Uh-huh.
Donc les gens se disent, mais quel top 15?
Bah, exactement, quel top 15, Anthony?
Putain, mais j'ai rien foutu cette semaine.
Ça va pas du tout.
Ça ne va pas du tout. Mais ils ont fait un top 15 des meilleurs humoristes, selon eux, pour l'instant aux États-Unis.
Ok, et je suis où?
Tu es... Ah, oh. C'est con, 16.
Ah, putain.
Ah, merde.
So close.
And Dan Gagnon. Et quand tu seras en couverture de GQ, tu me reparleras encore? On continuera le podcast ou...
Quand je serai en couverture de GQ? Je vais te parler, mais genre...
Ou je serai qu'une date dans ta bio, où c'est que des dates, tu vois. Tu vois, 2013, il enregistre un podcast, puis on passe direct à 2014.
Il y a pas... Genre, sur Wikipédia, il n'y a pas d'hyperlien en bleu comme ça.
Merde, mais je le rajouterai moi-même.
Mais si tu veux, tu peux, hein, parce que tu sais que j'ai une page Wikipédia et je soupçonne mon producteur de l'avoir mise à jour dernièrement, parce que j'avais une page Wikipédia pour une raison honnêtement j'ignore, et mon producteur pendant les 3-4 premières semaines, producteur donc du Late Show, fait ce serait quand même bien si la page était à jour, si il y avait une page pour le Late Show, ce serait bien si il y avait une page, et au bout de 4 semaines envoyer des mails sans avoir eu de réponse, comme par magie, il y a une page Wikipédia qui a été créée, et comme par magie, on a arrêté de recevoir des mails. Donc d'après moi, c'est ça qui s'est passé.
Faudrait que j'en crée une pour moi alors, parce que j'en ai pas.
Ouais, et s'il te plaît, si
je n'ai rien à mettre dedans.
S'il te plaît, tu peux mettre spécialiste du hashtag, le spécialiste du hashtag Anthony Mirelli. Ça peut être la première phrase. Tu sais quoi, faites-le. Vous êtes de toute façon en train d'écouter un podcast, donc clairement, c'est que vous avez du temps libre. Et on n'était pas votre premier choix de divertissement, on le sait, ça nous vexe pas.
C'est parce qu'il n'y avait pas de Marc Maron cette semaine.
Il n'y avait pas de Marc Maron, c'est ça, il y avait quelque chose, il se passait, vous aviez fini de binge-watcher, tout, vous avez refait tout Kaamelott, tu vois, et fait, putain, il est juste midi, on est dimanche, qu'est-ce que... Allez, on va écouter un peu de cabochons.
Vous pouvez aller parce que ça ne va pas prendre de temps, hein. Il y a juste, vous pouvez juste mettre mon nom.
Le spécialiste du hashtag Anthony Mirelli est l'inventeur du groupe de fans hashtag Armirelli.
Voilà. Je suis né le 26 juin 85 et voilà. Je suis né en Belgique. Voilà, c'est tout.
Et il a remporté en 2007, 2008 et 2009 le concours du sosie bruxellois d'Harry Potter.
Et je présente une émission. Putain, en fait, je me diminue à mort.
Bah oui, tu présentes une émission en télé.
Je passe en télé.
Lunettes noires, lunettes blanches.
Et je fais un podcast.
Bah oui. Qui est repris sur Golden Moustache.
Voilà. Bah ça va en fait.
J'ai toujours l'impression que Golden Moustache, c'est quelqu'un qui te pisse sur la lèvre.
C'est Golden Shower ça.
Pourquoi est-ce que Golden Moustache, la moustache est noire sur le logo?
Et c'est vrai ça. Mm-hmm. Ça dérange.
Mm-hmm. On n'a pas peur de secouer l'establishment. Le grand capital.
Je crois que... En 29 podcasts, on s'est plus posé de questions sur Golden Moustache que eux.
Sur nous?
Ouais.
C'est pour ça qu'on est encore là. Yo, c'est sûr qu'il n'y a pas une réunion en disant « Bon, ok les boys, podcast, comédie, news, machin, je ne sais pas trop quoi en anglais, alors qu'ils ne parlent pas anglais. Pourquoi, qui a acheté ça? » T'as l'impression qu'on est le dernier move de quelqu'un juste avant de se faire virer qui a décidé de leur faire un coup de pute, ça. J'ai signé pour 47 émissions. Oh putain, sérieux?
Oh putain.
Avec une clause de diffusion obligatoire. Oh putain, les mecs, quoi pas cool? Not cool. Une chose est sûre, le gars de Golden Moustache, après une décision pareille, n'aura pas de Golden Parachute.
C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On y va ou pas?
Pas encore, il me reste encore un...
Ok, vas-y, dis-moi.
Tu sais que... Hier,
t'es le plus mauvais improvisateur que je connaisse.
Hier, j'étais complètement bourré.
Ouais?
Ouais, ouais. J'allais dans un bar et puis on a pas arrêté de faire des shots de... Goldschlager. Pour dire à quel point j'étais bourré, je me suis acheté un chien.
Un Golden Retriever.
Bam, 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 bam.
Allez, bon soit.
Les top 15 des humoristes, Anthony.
Tu vois pourquoi tu es 16e.
Ex-aequo 16e.
Ex-aequo. Avec les Chevaliers du Fiel.
Les Chevaliers Las Palas.
The Knights of, comment on pourrait dire en anglais.
Of the File.
The File. Voilà. Bon, 15e, Julia Louis-Dreyfus.
Bien.
Pas mal.
Oui, on est d'accord.
14, Nick Kroll. C'est un top très dans l'actualité, en fait.
Oui, parce que si tu prends la carrière des deux, Julia Louis-Dreyfus devrait être devant, mais si, en ce moment même, qu'ils sont... Ouais, c'est normal. Ils vont pas faire un top de tous les temps, ce serait débile de toute façon. Donc, voilà. Ouais, Nick Kroll, ouais.
13, Kevin Hart, et ça je comprends pas des masses.
Ah, c'est qu'aux États-Unis il y a une autre Kevin Hart, c'est en gros c'est le nouveau Eddie Murphy, c'est-à-dire qu'il joue dans 7 films par année.
Mais moi je l'aimais bien, et je pense qu'on en a déjà parlé ici, et puis j'ai vu un film qu'il a fait avec De Niro et Stallone se foutent sur la gueule dans un combat de boxe. Il est insupportable.
Mais ils deviennent un peu trop de eux-mêmes. C'est arrivé à Robin Williams, c'est arrivé à Eddie Murphy, c'est arrivé à ces gens-là. Mais il a fait un truc où c'est genre il veut marier une fille et puis le frère de la fille vont le tester un peu, et ça a été une espèce de film à petit budget comme ça qui devait sortir discretos, et finalement ça a été le film numéro 1 aux États-Unis pendant quelques semaines.
Ride Along.
Ouais, c'est ça.
Avec Ice Cube.
Faut toujours checker la forme de la glace pour voir.
C'est dingue, faut se dire qu'il y a deux Ice.
Et aussi
aux États-Unis.
Ice Baby.
Vanilla Ice.
C'est ça.
Ok. 3 donc.
Bah ouais.
Donc, on disait sur Kevin Hart.
et ici, ces films-là ne traversent pas nécessairement l'Atlantique. Et donc, il y a un street cred aux États-Unis qui n'est pas ici. À la base, c'était un humoriste pour Black, un peu comme tous les films de, comment il s'appelle, Tyler Perry.
Ouais.
Qui fait des films vraiment par et pour. Pour la communauté black aux États-Unis. Et je pense que c'est ça qui explique le décalage. Il a aussi animé certaines soirées, si ma mémoire est bonne, Kevin Hart.
Il avait fait un machin sur MTV, je pense.
Ouais, c'est ça. Et il est très, toujours hyper, comme ça. Très, très, très dans l'énergie.
Ouais, et pourtant, j'avais rien contre lui. Et quand on a vu ce film-là avec ma copine, elle m'a dit, mais il fait crier. Et du coup, j'ai vu que ça.
Ah ouais, et une fois que tu vois les défauts de quelqu'un. Ouais.
Je le vois crier tout le temps.
Ah oui, non, mais c'est ça, mais c'est normal. Mais le gars a vraiment du talent quand même, il en fait des tonnes en ce moment.
Ouais, bien sûr.
Mais à travers tout ça, il y a quand même des trucs qui sont vraiment drôles. Et, si vous ne connaissez pas, honnêtement, c'est rien qui va révolutionner le genre, mais il est très efficace dans ce qu'il fait.
Il y a un film, un espèce de film documentaire sur sa tournée qui s'appelle Let Me Explain. C'est assez impressionnant parce qu'il joue au Madison Square Garden.
Oui.
Et là, tu te dis.
Ah non, il vend du ticket. Hein.
Ça va quoi?
Il fait bouger le ticket. Donc, celui, c'est en numéro 14, Kevin Hart.
13. 14, c'était Nick Kroll.
Ouais.
Et
moi, je partais de 16 dans ma tête, pour ça.
12, John Oliver. Ouais. C'est un peu bizarre comme top, hein?
Ben, c'est. Pour l'instant, c'est la capacité à générer du lol, peu importe le domaine, mais c'est sûr que comparé Kevin Hart et John Oliver, c'est la première fois qu'ils sont mis dans la même catégorie, je pense.
J'ai l'impression surtout qu'ils ont fait un top de gens qu'ils ont eu en interview. Tu vois,
qui on peut avoir comme humoriste,
qui est drôle dans la rédaction là pour l'instant.
Ouais.
Mais ouais, John Oliver, il est revenu hier, et j'ai pas eu le temps de le voir non plus chez John Stewart pour venir faire la pub de son show
hier HBO. Donc jeudi.
Ouais.
Qu'est-ce que t'as fait cette semaine, Anthony?
J'ai regardé d'autres choses, je vais y arriver après.
Ok.
Ça, j'ai pas eu le temps.
Donc on commence par parler de ce qu'on connaît pas, voilà. Qu'on a pas vu. Puis après ça, on parle de ce qu'on maîtrise.
John Oliver, je connais, j'ai vu.
Tu maîtrises.
Oliver, j'ai déjà vu. Je maîtrise par une petite clé de bras.
Oh wow. Hashtag clé de bras. Hashtag clé de bras.
Tu sais à qui ça va plaire? À la maman qui écoute le podcast dans sa voiture.
Bah, peut-être qu'il va avoir un nouveau petit frère.
Oh.
Peut-être que tu vas avoir un nouveau petit frère.
Mettez du Barry White, mais pas notre podcast.
Est-ce que vous êtes déjà fourré en écoutant le podcast? On veut savoir. Hashtag fourré.
Moi, j'ai pas envie de savoir.
Ben, si. T'as déjà pensé à ça quand t'es une fille? Pas un gars, c'est pas, mais quand t'es une fille, pense à quelqu'un que t'as croisé dans ta vie qui te mettait vraiment mal à l'aise, tu vois. Que tu trouvais un peu dégueulasse. Ben, tu sais qu'il a déjà éjaculé en pensant à toi.
Moi, je dois enchaîner, moi, après ça. Parce que tu me regardes avec ton regard pervers, je sais pas quoi.
En numéro 12.
11, t'as un problème avec les maths?
Oui, mais je rappelle John Oliver.
En numéro 12, John Oliver. Pas mal, bien joué. En 11, c'est Kate McKinnon.
J'ai aucune idée qui est ce garçon.
parce que c'est une femme déjà.
Ok. Bah, ce qui prouve mon point,
c'est que je te paquais ce garçon. Bah, c'est une du SNL en fait.
Ah.
Ouais. Qui est un peu la nouvelle Kristen Wiig.
Ok.
Elle est partout et elle est assez douée.
Ouais, on aime bien.
Elle est, ouais, franchement, elle est pas mal du tout. Elle a fait un
analyse en profondeur de son style.
Ouais, ouais. Mais je te dis, j'ai un petit problème avec le SNL pour l'instant, donc.
Ça, ça doit te mettre... Pour ceux qui
ne
suivent pas le podcast depuis le début, Anthony Mirelli, s'il avait le choix entre sauver sa copine ou sauver SNL, sa copine devrait prendre des cours de plongée assez rapidement pour avoir une chance de survivre. Sur un pont, on sait clairement qu'il va pousser la copine avant de pousser SNL. Mais depuis quelques temps, il n'a pas aimé les épisodes et ça le met mal. Tu vois qu'il... Il a même changé sa couleur de cheveux pour essayer d'avoir un petit renouveau comme ça. Il a changé son style de barbe. Maintenant, il retrousse les manches de ses chemises pour avoir l'air plus dynamique en disant « Ok, les boys ont trouvé une solution. »
Je me mets au boulot, quoi.
Oh, oui,
là, dans le cambouis.
Ah oui, non, mais tu donnes tout, là. C'est...
Ouais, ouais.
Tu desserres le nœud de cravate, un peu d'eau sur les tempes et c'est bon, quoi.
Puis bon, allez, Lorne.
Ouais, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe?
Quoi et c'est...
Non, mais elle est bien. Le reste, pas trop, trop bien. Tu veux que je continue sur SNL tant que j'y suis?
Vas-y.
Parce que la saison est bientôt terminée. Ils ont donné le nom des trois prochains invités. Ce sera Andrew Garfield, donc Spider-Man.
Ouais.
Charlize Theron, a.k.a. la femme la plus jolie du monde, la plus belle.
Et apparemment, c'est une des filles les plus gentilles de la Terre.
C'est vrai.
Elle est passée dans une vente de garage à un moment donné, apparemment. Yard sale, je sais pas, mm-hmm. Brocante, je sais pas quoi. Et t'avais deux étudiantes qui vendaient leurs trucs, puis elle leur demande « Ah, pourquoi est-ce que vous vendez ?» Ah, puis elles avaient besoin pour un truc qui leur tenait à cœur, ou je me souviens plus exactement c'était quoi, mais apparemment, elle dit « Bah tiens, ça devrait vous aider. » Elle a enlevé son soutif, puis elle leur a donné le soutif pour qu'ils puissent le vendre. Ça m'a coûté une douille.
Tu sais, c'est ça le truc qu'ils pensent.
Ça m'a coûté une douille.
Ah.
C'est le vieux le plus dégueulasse.
Donc voilà, Charlize Theron, elle avait déjà animé une fois et j'ai pas de souvenir d'elle. Alors que normalement je devrais. Et puis Andy Samberg.
He's back!
Pour la dernière. Mais ça pour l'instant, ça fait quelques années qu'ils font ça, c'est que les derniers, c'est des anciens qui reviennent.
Très bien.
Qui reviennent à la maison. Et il y aura en février prochain un numéro spécial de 3 heures en live pour les 40 ans.
C'est pas toujours en live, Saturday Night Live?
Ouais, mais là, c'est pas un best-of, quoi. C'est pas un best-of.
Ok.
L'image, ce sera un show de 3 heures. Avec, à mon avis, tous ceux qui veulent revenir reviendront. Ceux, à mon avis, qui veulent toujours pas revenir, genre Eddie Murphy, Chevy Chase et tout ça, ne reviendront pas.
Eddie Murphy, il veut pas revenir, je savais pas ça. Je savais.
Il est même pas, parce que je vois que t'as livre là derrière, Live from New York, donc le livre sur toutes les interviews des membres et du casting et du crew de SNL. C'est un des rares qui veut pas s'exprimer sur le SNL.
Pourquoi?
Franchement, je sais même plus.
C'est un fight avec Lorne, j'imagine?
Ouais, ouais, je pense. Et il y a beaucoup de disputes raciales comme ça.
Ok, oui, oui.
J'avais déjà expliqué aussi Chris Rock qui disait qu'il faisait trop blanc, oui. Qui mettait ses lunettes de soleil. Alors, voilà, il y a toujours une ambiance un peu électrique comme ça et c'est un des rares qui ne veut pas s'exprimer.
Ok.
Bah bon, sur 40 ans de casting.
C'est pas mal, finalement.
Ça va. C'est juste parce qu'il a, bon, il a quand même bien percé après, on va dire.
Oui, ça ne lui a pas nuit pour la suite de sa carrière.
Comparé à d'autres. Et. C'était pas nécessaire, hein, cette...
Non, mais c'était bien senti. On continue le top.
Ouais, après, ils ont pété un câble parce que 5 à 10, c'est le casting de la série Silicon Valley, qui, pour rappel, n'a que 3 épisodes. Alors, c'est une très bonne série. C'est diffusé, pour rappel, sur HBO. C'est une série donc, sur la Silicon Valley, sur un mec qui crée un algorithme qui permet de compresser les fichiers tellement petits que ça devient avantageux et que c'est... Tous les coulisses de la Silicon Valley, que des grosses startups et des machins pareils. C'est drôle. C'est créé par Mike Judge, le créateur de.
Ouais, Beavis and Butthead.
Beavis and Butthead, ouais. Mais voilà.
Ouais. Et c'est des noms un peu qui ont fait d'autres choses à côté, qui sont un peu connus à côté ou...
Il y en a certains qu'on ne connaît pas, genre Zakoud, je ne connaissais pas, et Thomas Mildolditch, je ne sais même pas. Sinon, il y a TJ Miller, c'est l'espèce de fou qui a des cheveux bouclés comme ça, super longs. Qui a toujours une tête de drogué. Ce type est vraiment dingue dans tout ce qu'il fait. Il y a Kumail Nanjiani.
Ouais.
Et Martin Starr qui était dans Party Down et dans Freaks and Geeks. Mais enfin ouais, voilà quoi.
C'est pas des superstars quoi.
De là à occuper 5 places du top. C'est ça que je comprends pas en fait.
Ouais, c'est bizarre.
Bah bon.
Et le top 4 maintenant?
Mais c'est 3 et 4, du coup, c'est Key & Peele.
Ok, ouais, bah oui, ça c'est...
Qui donc bosse avec, pour l'instant avec Judd Apatow, qui ont leur show qui cartonne, qui est prolongé, qui est... ils vont avoir une série animée, ils bossent sur Police Academy, ils bossent sur des films, et ils sont aussi dans les top 100 des stars influentes dans Time Magazine.
Ah ouais.
Ça va, quoi.
Ouais, c'est impressionnant, ça, quand même. Non, mais je veux dire, c'est, d'habitude, les stars influentes, tu vas voir les grosses movie stars Hollywood, les producteurs, ce que tu voudras, les comiques des qui ont un sketch show, c'est ça, c'est pas...
Il y en a deux, les comiques. Il y a eux deux et Seth Meyers.
OK.
Ce qui est bizarre aussi, parce que...
Ouais. Jimmy Fallon avant Meyers, ouais. Mais...
Je sais pas. Et alors, c'est toujours un ami qui écrit. Pour Seth Meyers, ça a été Amy Poehler. Et pour Key & Peele, c'est Judd Apatow.
Ils sont bien entourés.
Ils sont bien, je crois. Et numéro 2, Amy Schumer.
Ah, mais j'ai encore vu un truc de la deuxième saison de Inside Amy Schumer. Un épisode où il y a un sketch sur le service à la clientèle. C'est mon frère qui me l'a envoyé. Elle appelle le service à la clientèle, elle se prépare, elle fait du yoga avant de devoir les appeler. Ça dure la blinde. La conclusion du sketch est incroyable. L'épisode commence, elle est cachée dans un gâteau pour faire une surprise à son mec. C'est drôle, c'est bon même quand c'est pas drôle. C'est bon à ce point-là, tu vois. Quand tu regardes le truc et que c'est pas drôle, tu trouves que c'est un bon épisode. C'est à ce niveau-là. Et le générique, la musique du générique déchire. L'idée du générique est toute simple, mais vraiment bien. Les capsules, la construction, les interviews qu'a fait, c'est un putain de bon show, sérieusement. Et ça, d'après moi, ça tendra pas à être copié en Europe francophone.
C'est vrai?
Ouf! Quelqu'un qui va s'en rendre compte que c'est bien, la formule est suffisamment différente pour que ça a l'air original.
Est-ce qu'il y a des humoristes femmes qui oseraient ce qu'elles osent?
Ouais.
Chez nous?
Oh, je pense que oui. Et puis justement, en plus, quand tu sais que t'es doué et le but c'est de te faire connaître, je suis certain qu'il y en a qui oseraient. Est-ce qu'elle le ferait avec le même talent? Ben ça, je peux pas le dire, mais qui oserait le faire? Ouais, je pense qu'on sous-estime à fond les filles comiques qui sont. Moi, j'en vois quelques-unes qui sont vraiment. Avant émergent, tu vois, super doué, qui commence et tu te dis, genre, oh shit, le potentiel. Mais un potentiel, tu sais qu'en comédie, ça met des années avant de d'éclore. Mais il y en a quelques-unes, entre autres en Belgique, il y en a deux, dont une qui joue un peu à Paris de temps en temps, qui s'appelle Laura Lone. Qui est. Si elle repasse au Comedy Club, je te ferai signe. Je vous ferai tous signe, si vous voyez ce nom-là passer. Elle a un potentiel Sarah Silverman vraiment, vraiment bien. Au-delà du fait qu'elle sait jouer la comédie, elle a compris aussi l'écriture comique vraiment très bien. Et donc, ses effets, c'est pas juste des effets au hasard, tu vois. C'est des effets bam, bam, bien boulonnés, bien foutus. Et une autre qui commence, ça fait pas très longtemps non plus qu'il a fait, qui s'appelle Alexia Bonnet. Et elle est dans un crew en Belgique qui s'appelle...
J'ai vu la vidéo de ce machin-là. All You Need Is Love.
C'est ça, ouais. Exactement. All You Need Is Love. Ils sont allés faire un truc à Paris dernièrement.
Ouais.
Ils sont 7-8 dedans et ils ont chacun des styles vachement différents. Et ils sont... Moi, j'ai limite plus de plaisir à regarder des shows comme ça que des shows genre dont le show est fini de polir et qui, malgré tout, même s'il y a des effets qui sont plus efficaces, tu te dis que t'as du mal à connecter. Je connecte plus avec quelqu'un qui est en construction. Ça, c'est mon côté geek de comédie. Et c'est des filles. Elle a un sketch au complet, Alexia, sur la bifle. Mais explicite, tu vois. Et même, je peux le dire, parce que j'y brûle pas un gag parce qu'il est dans le teaser. Mais dis-moi, je suis inscrit sur un site de rencontre. Et bon, je sais que vous allez vous dire, ah, elle est en manque. C'est pas que j'étais en manque. J'avais la chatte en jachère.
Ah oui, j'ai vu. Mais justement, cette vidéo-là, c'est ça. J'allais en parler. C'est que je vais la poster. On voit un extrait de un peu de chaque humoriste. Ah, oui. Là, ils ont fait la tournée où ils sont dans le van.
Oui, c'est ça, exactement. Et honnêtement, c'est intéressant. Et chacun a une personnalité vraiment différente. Et ce groupe-là, donc, c'est All You Need Is Laugh, Ainil, donc ils le réduisent. Si vous voyez passer ça, je sais qu'ils sont allés jouer à Paris.
Ils jouent le 2 à Bruxelles, le 2 mai.
Ouais.
C'est le théâtre 140.
Ouais.
Ouais.
Si vous avez l'occasion, honnêtement, allez voir. Vous allez être. Tu sais, quand on dit, ah, c'est toujours la même chose, il n'y a rien. Eux, ils sont nouveaux. C'est juste que, bon, ça met du temps avant de. Trouver ta voix, trouver ton spectacle, ton public, ça tu voudras. Mais ils sont drôles. Ils sont vraiment drôles et ils sont vraiment particuliers. Et même s'il y en a un qui vous fait pas rire, vous allez capter. Il y en a un qui s'appelle Talib Saritas.
Je suis fan.
Ce qu'il fait, c'est malade. Moi, j'ai jamais vu ça nulle part. Aux États-Unis compris, Québec compris, je comprends pas. de temps en temps, il sur scène, tu vois, il piétine. Et je l'ai vu faire la dernière fois un truc où il s'est juste pris la cheville et il s'est comme étiré la jambe pendant une demi-seconde. Puis après ça, il l'a remis puis il a dit « Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. » Et puis il enchaîne avec autre chose. Mais tu comprends. J'ai dit « Man, j'aimerais ça te coacher, mais je sais pas quoi te dire. Je comprends rien. » Puis je rigole. Si un jour, il devient bon puis que les gens essaient de le copier, ça va faire probablement les... Comme ceux qui essaient de faire de l'humour absurde alors que c'est pas leur trip. Tu vois, le côté super naze, lui, ça va être la même chose. Mais quand il est sur scène, la moitié des gens trouvent ça génial et l'autre moitié lui disent qu'il devrait arrêter l'humour et que c'est une honte. Et c'est pris...
À ce point-là?
Oh oui. Parce que c'est bizarre. Mais eux, donc, ils sont 7 au total, 7-8 au total. Et,
en fait, il n'y a que elle que j'ai pas vu, là, Alexia.
OK. Ben,
parce que les autres, je les ai déjà vus sur scène, mais...
C'est vraiment... Dès que quelqu'un essaie quelque chose de différent, c'est nouveau. Et c'est le genre de fille qui pourrait tout à fait faire un truc à la Amy Schumer, justement. En tout cas, c'est sûr que, comme on peut l'entendre avec le gag que je viens de dire qu'elle fait, elle n'a rien à foutre de se mettre dans des situations comme ça.
Moi, le souci que j'ai avec Amy Schumer, c'est que j'adore, je trouve ça vraiment bien. Il y a le côté, et ça c'est toujours un peu, ça, c'est plus les médias, elle n'en peut rien, mais c'est bien parce que c'est une fille et qu'il n'y a pas beaucoup de filles.
Ouais. Ouais, mais elle le joue pas.
Mais moi, j'en ai le truc qu'elle joue, par contre, c'est à un moment donné, t'aimes bien le cul ou t'as envie de parler de cul, c'est bien. Il y a d'autres choses, tu peux faire de l'humour sur autre chose. Elle a un stade où elle a plus besoin de choquer pour faire parler d'elle.
Mais est-ce qu'elle a déjà voulu choquer? Moi, je soupçonne.
Elles sont trois aux États-Unis, 3-4 à faire ça. Tu sais bien que Sarah Silverman n'aurait jamais parlé de bite. Ben, elle aurait eu une petite carrière, une jolie petite carrière, elle serait pas devenue Sarah Silverman.
On est bien d'accord.
C'est dommage, mais c'est comme ça. Et là, je trouve que quand on est à jouer, le titre de ton épisode, c'est The Porn Star, puis c'est Gang Bang, puis c'est. Je sais pas quoi, avec son film avec Judd Apatow, c'est Trainwreck, qui veut dire une espèce de fille paumée comme ça.
Ouais.
C'est tellement tout le temps la même chose que.
Mais il y a aussi un côté, c'est que toi, t'es fatigué parce que tu la connais depuis longtemps.
Ouais, bien
mais
sûr.
Et quand tu l'as découvert, c'était aussi un attrait. Et je pense qu'elle est au stade où là, elle commence à exploser vraiment fort grand public. Et c'est certainement pas en ce moment qu'elle va changer ses trucs, parce que c'est en ce moment que ce que toi, t'as pu avoir avec elle il y a un an ou deux, elle l'a avec le grand public.
Ouais, donc. Mais je trouve ça dommage. Je me dis, oh, c'est encore le même sujet. Quand elle fait plusieurs trucs, donc il y a des sketchs dans son show, il y a du stand-up, il y a...
Des interviews dans la rue, avec
des dans la rue.
Et des interviews à la fin avec...
One-on-one, comme ça, avec...
Et moi, les deux que j'ai vus, c'était un gars qui produit des films de cul et une fille qui faisait du phone sex.
Voilà. Tu vois? Et moi, j'avais un autre exemple. C'est à un moment donné, elle interview un black. Elle lui dit « Alors, donc, t'as une énorme bite. Ça fait quoi de jamais pouvoir la foutre au fond ?» Tu dis « Oui, mais tout ton show, ça a été ça et tu termines par ça. » Et c'est... Ça devient écœurant, en fait.
Oui, oui, je vois ce que
tu veux dire. Trop de sucreries, tu vois? C'est...
À fond.
Voilà. Mais bon, après, elle a tout à fait du talent et sa place d'être là. Et je suis personne pour juger, mais voilà.
S'il y a de quoi, c'est le seul sujet qui l'inspire aussi.
Ouais, bah alors là, c'est dommage, parce que qu'est-ce qu'elle va faire plus tard?
De la porn, fille.
Ouf.
Les meilleures porn parodies de l'histoire. Des porn parodies avec du vrai comédie dedans.
Ouais. Mais, je sais pas. Je pense qu'après le film avec Judd Apatow, elle doit changer, à mon avis, de... Pas de type d'humour, continuer un peu là-dessus, mais...
Continuer de surprendre, tout simplement.
Sarah Silverman, c'est ce qu'elle fait, je trouve.
Ouais. Et, mais tu sais que c'est pas facile aussi, parce que...
Bah, je me doute, non, mais c'est, moi, c'est facile de dire ça dans le salon,
oui,
là, mais...
C'est difficile de trouver une zone de confort quand tu fais de la comédie. Et je dis ça, je prends juste l'exemple. Pour moi, je suis en construction en ce moment pour un nouveau spectacle. Et le premier spectacle, c'était entre guillemets facile. Je suis québécois, je parlais du fait que j'étais québécois, puis j'étais arrivé en Belgique et je parlais de... comment je voyais les Belges.
Mmh.
Et donc, du coup, tu dis, je monte sur scène en parlant aux gens d'eux-mêmes.
Ouais.
C'est, entre guillemets, assez confortable. C'est un bon filon, l'étranger de service. C'est le fish out of water. Finalement, c'est une prémisse comique de base. Deuxième chose, j'avais envie plus de parler des trucs qui m'arrivaient à moi puis ce que je pensais. Parce que, pendant que mon chien tousse. Mais t'arrives sur scène et t'as la chienne. T'as super peur parce que tu dis « Ouais, mais c'est de quoi? Je vais parler de moi pendant une demi-heure. » Et ils vont dire « Mais on s'en cogne, vieux. »
Ouais, ouais.
Et donc, là, toute la fanbase qu'elle se fait, elle se la fait là-dessus. Sur les gens qui aiment qu'elle parle, la blonde qui parle des trucs de cul.
Mais oui, mais et donc, elle se l'est faite sur la saison 1.
Et c'est chaud aussi, elle fait beaucoup de scènes.
Oui, elle a fait. Mais toi, même son spectacle le plus connu, il s'appelle Mostly Sex Stuff.
On peut pas lui mentir de cacher la prémisse. On peut pas lui reprocher de cacher la prémisse. Hein. Mais c'est encore.
Personne ne va t'en vouloir si à un moment donné tu fais une blague, je sais pas moi, sur Facebook, enfin j'invente, mais
ouais.
C'est pas grave. Non, elle va faire sur Facebook parce qu'en fait elle a dragué un mec et le mec lui envoie une photo de sa bite. C'est tout le temps.
Ah ouais.
Le même ressort en fait.
Ouais, non, c'est vrai que c'est le même. Elle le maîtrise bien, mais c'est vrai que c'est le même ressort.
Ça fait quand même 5-6 ans qu'elle le fait, donc ce serait dommage de pas savoir le faire en plus. Mais,
et on rappelle, elle aussi était pendant un bout de temps en couple avec
Anthony Jeselnik.
Ce qui ne nuit jamais, j'imagine.
Ils ont dû être dégueulasses tous les deux, hein. Non?
Moi, je soupçonne qu'il baisait pas beaucoup.
Là, c'est très effet spéciaux. Hein. Je sais pas si vous avez entendu l'avion.
Ouais, le chien qui cherche quelque chose en dessous du sofa, donc ouais. Il gémit un peu, qui tousse. On est vraiment, c'est de la radio-réalité. Fait.
Mais surtout, ça a caché ce que j'essayais de dire. C'est bien. Je sais pas si je dois le répéter.
Non, on a compris. Mais avec tout ce qu'ils sont prêts à dire, s'ils sont prêts à en faire la moitié, ça doit effectivement être assez particulier. Donc ça, c'est en numéro 2, Amy Schumer.
Et en numéro 1, à ton avis?
Plus drôle, ben, s'il est en cover du magazine et qu'ils l'ont pas mis en numéro 1, ça sera assez bizarre.
C'est Louis C.K.
Louis C.K.
Ça tombe bien, le show recommence dans la semaine prochaine.
Putain, j'ai hâte, man.
Ouais.
C'est un des rares shows que j'arrive pas à attendre avant de mater les épisodes.
Ouais, tu dois le voir tout de suite.
Il est sorti, je me souviens, je me dépêchais à le voir, comme ça je pouvais le commenter. Et en général, la première personne qui réagissait à mon commentaire, c'était un certain Anthony Mirelli, qui était le seul à l'avoir vu aussi vite. Franchement, je me levais plus tôt pour pouvoir checker l'épisode avant de partir travailler. J'avais un boulot à cette époque.
C'est ça que je me dis, tu sors peut-être chez toi.
Mais ça va être... Peu importe comment ça va être, on sait que ça va être bien. Ce sera peut-être drôle ou moins drôle... Ça va peut-être rendre mal à l'aise ou pas tôt, mais on sait que ça va être bien. C'est sûr que ça va être bien.
J'espère. Non, je sais que ça va être bien.
C'est sûr que ça va être bien.
Non, mais ouais, non, mais ouais, Louis C.K., qu'est-ce que tu veux faire? C'est voilà quoi.
Et si vous. Il n'y a rien de plus intéressant que checker le parcours de Louis C.K. et vous devez regarder, si vous avez l'occasion, l'hommage que Louis C.K. a rendu à George Carlin.
Ouais.
Où il explique en gros les coulisses de sa comédie à lui. Et c'est fascinant. Fascinant. On mettra le lien sur le site de Golden Moustache. C'est en anglais, forcément. Mais c'est... Il y a là-dedans plus d'infos sur la fabrication de la comédie et les passages sur scène que dans Maliva.
Et je trouve ces spectacles, ils sont pas très vieux, mais ils vieillissent bien.
J'ai re-regardé Chewed Up, qui, je crois, qu'il était marié encore à l'époque de Chewed Up.
En tout cas, il y a un des spectacles, un ou deux, où il était marié.
Marié avec des enfants, après ça...
Et tu sens que c'est la fin.
Oui. Et l'autre, c'est divorce. Voilà. Et Chewed Up, il est encore fabuleux. Il est fabuleux. Et l'intro, je vais juste raconter l'intro. Là. Il commence... Les gens applaudissent. Il commence, genre... Et puis après, il arrive sur scène, puis il fait « Thank you, thank you ». Et puis après ça, il y a quelqu'un qui crie quelque chose, puis il lui dit « Shut up, faggot ». Et faggot, c'est...
C'est celui-là que j'ai réécouté il n'y a pas longtemps.
C'est pour dire homosexuel, mais...
Pédale.
C'est ça, j'ai pédé, pédale, c'est une insulte. Puis après ça, il rigole lui-même, puis il fait « il manque ce mot-là, faggot ». Quand on était jeune, on pouvait dire « faggot ». Et c'était pas... Ça avait rien à voir avec l'homosexualité, parce qu'on savait pas que les hommes faisaient ces choses-là entre eux, tu vois. C'était juste quand... Je sais pas, on traitait les gens de pédale quand ils faisaient la pédale, tu vois. Genre, je sais pas, ils disaient un truc à la... « Ah, mais j'ai peur de me faire mal, ça. Arrête de faire ta pédale, tu vois. » Et pour vous dire à quel point ça n'a rien à voir, si j'arrivais et je voyais deux mecs en train de se sucer, et honnêtement, je sais pas pourquoi je regarde, mais j'ai trébuché, je suis là, puis ils font le truc, tu vois. Et ils font ça, genre, avec intensité. Et d'un coup, il y en a un qui s'arrête pour dire un truc très pédale, tu vois, genre, je sais pas, les habitants de Phoenix, ce sont des Phéniciens. Je lui dirais, shut up, faggot! Je dirais, stop being a faggot and suck that man's dick! Et c'est là la différence, je trouve, par rapport à beaucoup de comédies qu'on voit du côté francophone. Oh oui, ça, c'est les premiers mots qu'il prononce.
C'est incroyable.
Là où il réussit son coup, c'est qu'il y a plein qui vont faire semblant d'être racistes ou homophobes ou quoi que ce soit pour avoir un petit effet choquant, interpeller, faire un gag et passer à autre chose. Mais lui, il passe de faggot, ce mot-là me fait rire, c'est dommage qu'on puisse pas le dire. Donc, ça peut être encore être le mec qui genre un peu sur la limite. Et quand il dit « Ah oui, mais je dirais pas ça à deux homosexuels parce que c'est, on s'en fout, les gens font ce qu'ils veulent », tu fais « Ok, mais ça fait un peu, tu te rachètes ». Et en fait, son plus gros gag est pas sur « J'ai choqué ». Son plus gros gag est sur la façon de se racheter. Et donc, la boucle est bouclée parce que tu as plus d'emphase sur « Je suis pas comme ça » plutôt que « Je suis comme ça et je m'excuse ». Je sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire. Et en le disant, je me rends compte que c'est ça qui me gêne dans beaucoup de shows. Il y a le plan anglais aussi qui sont comme ça, mais principalement dans les trucs francophones. « Ah, mon cousin est black, mais tu sais, blablabla. Bla. » Mais tu sais, je dis ça, mais en même temps, c'est vrai que on n'a pas à en parler vraiment parce que nous aussi, on est comme ça. Et c'est faible.
C'est des tics que tu revois souvent. Plus tu vois des spectacles et plus ça te saute aux yeux.
Ouais.
T'as des tics et c'est surtout, je pense... Il y a plein de gens que j'aime bien voir sur scène qui ont des très bonnes vannes, et le gros problème c'est les liaisons et comment c'est amené. Mais oui, parce que moi je me dis que c'est la grosse blague maintenant quand on se fout du stand-up, c'est
je pense que ça vous a remarqué,
mais le problème c'est que c'est vrai, tu vois, il y a une vérité là-dedans, c'est que, et lui il passe comme ça de sujet et il t'emmène dans des trucs et tu dis putain, mais comment il est passé de ça à ça, et tu le vois pas venir en fait.
Ouais, et sa construction, lui en fait il construit bloc par bloc. Et il dit que la façon dont il fait, c'est qu'il met toujours son meilleur sketch au début. Il dit, et donc quand je travaille assez un sketch puis qu'il devient meilleur, ben oui, parce que normalement tu le mets à la fin. Il dit, je le remets au début. Et si ma mémoire est bonne, il dit qu'il sait que son show est prêt quand son sketch de début est arrivé à la fin. C'est brillant, c'est simple, efficace, ça t'oblige à toujours bosser. Et voilà. Il va faire une autre intro, c'est quand il dit que, enfin bref, il insulte les mères de tout le monde, il fait des blagues sur les juifs. Après, juste au moment où il y a plein de gags, ça met un peu les gens mal à l'aise, il fait « I don't know how to start shows. » Je sais pas comment commencer. Et sa transition, elle est parfaite. Après, il dit, c'est comme aller parler à une fille dans un bar. Tu sais que la première phrase, « It's just gonna be dog shit. » Et là, il enchaîne en disant, parce que tu peux pas être honnête avec une première phrase, à moins que tu lui dises « Je veux mettre mon pénis dans ton trou de face. »
Mais il y a un truc, un spectacle qui est disponible juste en audio, qui est pas très connu, c'est un de ses premiers, et ça a rien à voir, t'as pas l'impression d'écouter Louis C.K. Je sais pas, à mon avis, il a fait un travail, puisqu'il a des blagues qui sont drôles, mais c'est des blagues classiques de stand-up, tu vois.
Ah, mais tu sais quand il a changé, moi je connais un peu ça, je me suis informé sur lui parce que c'est mon héros, et c'est justement quand tu as vu un show de George Carlin. Il dit, je l'ai vu se mettre à parler de plein de choses et je me suis dit, putain, moi j'ai les mêmes vannes depuis 10 ans qui marchent sans plus. Il n'y a rien derrière le rire.
Il y a une vanne, attends, je te coupe juste deux secondes. La vanne qui dit et qui. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, ouais, mais c'est vraiment pas Louis C.K. Il dit, ah, on me dit souvent, Louis, ça fait quoi d'avoir grandi en tant que Chinois? Et genre, je sais même plus c'est quoi sa chute, et il dit, ben, enfin, je suis pas chinois, enfin, tu vois. Ouais. Et tu dis, bon, c'est une blague de stand-up, en fait.
Il y a rien.
Et je la raconte encore plus mal que. Oui. Elle est pas très drôle, mais. Et tu dis, putain, mais c'est pas lui, en fait. Faudrait que je retrouve ce spectacle.
Ben, regarde, je vais prendre un exemple avec un gars qui est actuel, et on va entendre, genre, l'ancien puis le nouveau Louis C.K. Quand il dit, si moi ça vous est déjà arrivé, vous pensiez que vous alliez péter, et puis à la place, vous chiez dans la bouche de votre père. Donc ça c'est you shit in your father's mouth. Ça serait un gag un peu de l'ancien Louis C.K. Et le nouveau en fait c'est qu'il rajoute une couche. Il fait, puis là tout le monde est là dans l'autobus en train de dire, ah, dude, pas cool. Puis là t'y regardes en faisant, ah, mais je pensais que j'allais péter. Ah, well, ok then.
Ouais, je vois bien, mais il s'arrêtait trop tôt en fait.
Et c'est un truc j'ai discuté de ça avec Baptiste Le Caplin pendant un moment. Il dit qu'il avait
su à des contacts.
Non, j'avais été invité par quelqu'un à un show. Je m'étais retrouvé par hasard à discuter avec. Et c'est un... Mais il va être dans l'émission d'ailleurs, Baptiste, dans le Late Show. J'ai vraiment hâte de le recevoir. J'adore la façon dont il pense et l'énergie qu'il déploie sur scène. C'est malade. Et lui, il disait qu'en voyant un Québécois, ça fait trop de name dropping, je sais, mais Louis-José, fin du name dropping, on revient à ce qu'on dit.
Qui a animé SNL Québec. Non, je connais, donc je peux le dire.
Il disait, je me rends compte que c'est ça en français. On arrive avec notre prémisse, notre idée farfelue, et au moment de l'idée farfelue, on s'arrête. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'idée farfelue, et là, ils jouent avec et ils la développent. Et je pense que c'est vraiment ça. Ce que tu penses, en général, moi, quand j'écris, ce que je pense être ma punchline, c'est en fait mon observation comique, et il manque encore là les punchlines derrière. Et le meilleur pour faire ça, je crois que c'est Yacine Bellousse. Il va prendre une idée.
Il presse l'idée à fond, comme un citron, quoi.
À fond. Je l'ai revu dernièrement. Il a toujours fait des trucs bizarres. Et maintenant, t'as l'impression qu'avant, sa prémisse, c'était son truc bizarre. Maintenant, il fait son truc bizarre. Il fait une vanne sur le fait que c'est pas tout le monde qui le suive. Et puis après ça, il joue avec le fait que c'est pas tout le monde qui le suit, mais qui continue. C'est brillant. Ça fait longtemps que vous avez pas vu Yacine Bellous. Prochaine fois, il passe peu importe où, quoi. Allez le voir.
Il repasse en Belgique. Tant que je suis à faire les dates,
ben oui.
On dirait vraiment de la vraie radio.
À fond.
Alors, vous serez le...
en spectacle à Bruxelles.
Mais il joue à Bruxelles fin du mois d'avril, je pense.
Oh, mais en anglais, je crois.
Le 30, en avril. Oh, ça change quelque chose?
Bah, si, il y en a qui parlent pas anglais quand même. Mais.
Ouais, mais bon.
Mais tu sais bien, nous, notre podcast,
il y a un nom anglophone. Hein.
C'est déjà bon, il fait des grimaces.
Je vais me rattraper ce jour-là, je pense, je vais aller le voir.
Oh, ouais, non, mais il faut absolument aller.
Parce que j'ai raté cette soirée.
La plus belle soirée qu'on a fait au Comedy Club à Bruxelles, ça fait il y a 2 ans d'existence, le Comedy Club, et on a eu une affiche terrible. Pierre-Bruno Rivard, un Québécois qui est excellent, qui sera au 6 mai. Le 6 mai au WOW, la Woluwe-Saint-Pierre avec Dan Gagnon pour le gala spécial des Québécois. Moi, j'animais. Il y avait donc Georges D, dont on a déjà parlé ici. Talib Saritas qui était là. Pierre Bayana, dont on a déjà parlé aussi ici. Yacine Bellous, Cody et...
Kian.
Et Kian Kojondi.
Ça va, quoi.
C'était une soirée. Moi, c'était. Je m'en fous de ce que j'ai fait sur scène, mais en tant que spectateur.
Ouais, mais n'enfonce pas le couteau parce que moi, je pouvais pas venir. Et...
Non, monsieur avait la nif de sa meuf. Anthony m'a fait rire. Si vous voulez vraiment connaître Anthony, il a engueulé sa meuf. Parce que
j'ai pas engueulé ma meuf.
Tu lui as dit.
C'est une blague.
Ce que je me souviens que. T'es... Là, tu dis ça parce que tu sais qu'elle écoute, mais ce que je me souviens que t'as dit, et corrige-moi si je me trompe ou si je te mets dans la merde, mais. T'as dit. Elle fait son anif ce soir-là, mais. C'est même pas le vrai jour de son anif.
Mais c'est vrai.
Son anif, c'est le lendemain.
C'est vrai.
Et comme un seul homme. En plus, il y a des amis qui ont été Judas avec toi, qui sont passés au Comedy Club.
Et tu sais quoi, je dis, mais vous êtes où? Pas une seule réponse. Et puis, ils sont venus quand même.
Plus tard, ouais.
Et je vois des photos avec Kian Kojandi. Ah, tiens, t'as vu, j'ai fait Navo en Simpson. Ouais, parce qu'il se reconnaîtra aussi, cet enfoiré. Monde de traîtres.
Tes amis, c'est des Judas. Moi, j'avais une bonne excuse.
Moi, j'avais du vin, donc...
on avait chacun quelque chose.
Voilà.
Et donc, pour revenir à Louis C.K., par rapport à George Carlin, il dit...
Ah,
après
oui, on parlait de ça.
Ah oui, c'est ça. Moi je tiens toujours note des parenthèses, parce que dans ma vie, j'en ouvre trop, donc je suis obligé d'avoir cette mémoire-là. Parce que sinon, c'est fini. Et il dit, moi, que mes gags, comme ceux que tu viens de nommer, les gens rigolaient, mais sans plus. Et il dit, puis un soir, je suis arrivé, puis j'en ai eu plein le cul. Quand je vois ce que George Carlin fait, je me sentais si loin de ce qu'il faisait. Et c'est là qu'il a commencé avec le... Je comprends pas, moi, les bébés dans les poubelles. Fait que ça aide. Et maintenant, j'ai jamais compris. Maintenant que j'ai des enfants, je cautionne toujours pas, mais je comprends les bébés dans les poubelles. Je sais d'où ça vient. Je sais pourquoi. Et les gens ont fait comme « Oh! » Et dit ce « Oh-là » valait plus que tous les rires que j'avais eus jusqu'à ce jour dans mes shows.
Il est sage, Louis C.K. T'as pas l'impression de...
Mais c'est, lui et Patton Oswalt, c'est peut-être les deux qui ont le plus de réflexion sur la comédie.
Mais j'ai l'impression que c'est l'espèce de Gandhi des temps modernes où une citation de Louis C.K., ça vaut tous les discours du monde. Mais c'est vrai?
Ben, pour moi, et on est dans cette phase-là. Et en Europe, on est en train de toucher cette phase-là. Maintenant, quand tu vois justement ce que les gens recherchent, et Kian, entre autres, et ces gars-là, quand tu les vois travailler, on est en train, au lieu d'avoir passé de gens qui étaient des MC de cabaret... T'es en train d'avoir des philosophes comiques. T'as toute une génération, une breed, vraiment une race de gens qui font de la philosophie comique. Et tu sais que c'est un philosophe comique quand, dans une situation, dans un argument, une engueulade ou quoi que ce soit, t'es capable de citer un extrait d'un humoriste. Ah, mais comme disait un tel, bla 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 bla. Et tout ça part, je pense, d'une construction inverse des shows qu'on voyait avant. Avant, l'humour, c'est un tour de magie. Quand il marche, t'as un rire. Quand il marche pas, t'as pas de rire. Beaucoup partaient des gags puis essayaient de trouver du lien entre eux. Et moi, les humoristes
que je disais.
Ouais, ça. Et les humoristes que je connais aujourd'hui commencent par qu'est-ce qu'ils ont envie de raconter. Ils racontent l'histoire le mieux qu'ils peuvent. Et après, ils essaient de voir comment ils peuvent rendre l'histoire comique. Et moi, je trouve que ça a tellement... Moi, ça a plus d'attrait pour moi. Je vais aller voir quelqu'un où je vais rire 2 fois moins qu'un autre, mais où je ressors de là en me disant... Il y a des phrases qui me restent. Et des fois, c'est pas toujours les phrases les plus drôles qui me restent. Des fois, c'est les prémices qui vont te marquer.
Ouais, c'est
la punchline qui permet d'enchaîner. Mais on a ça maintenant. Et t'as un gros, gros travail de plein de gens. Et bon, on n'en reviendra pas là-dessus parce qu'on en a parlé souvent. Et quand tu regardes ce que les Flaubert et Adrien Méniel peuvent faire aussi en vidéo, ça part d'une réflexion autre que juste avoir un gars qui... En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est sûr, cette fille-là, je sortirai jamais avec. Coupe en train de lui rouler une pelle. Qui est un effet qui va toujours marcher. Dis quelque chose, montre le contraire assez rapidement, ça va toujours marcher. Les gars cherchent autre chose et les filles cherchent autre chose en ce moment et prennent plus de risques parce que c'est un sacré risque de monter sur scène sans être sûr de tes effets comiques.
Mais c'est bien. Tu vis un truc pour l'instant où tu sais jamais sur quoi tu vas tomber et tu as souvent que des bonnes surprises.
Et tu peux plus facilement connecter avec un show. C'est pas juste si je ris 100 fois c'est réussi, sinon c'est un échec. C'est plutôt, tant est-ce que quand il parle, je connecte avec ce qu'il ou ce qu'elle dit. Donc, pour moi, on rentre dans une super phase, je pense, en matière d'humour du côté francophone. Et on est en train de rattraper le retard qu'on peut avoir aussi par rapport au stand-up américain. Et je pense que c'est une excellente nouvelle. Si le public suit, maintenant, si le public choisit qu'il n'y en a rien à branler puis qu'il veut voir des gags, ben,
on restera entre nous.
Ce podcast fera encore.
Ça fait secte un peu.
Oui, mais... Il y a tellement de choix maintenant, t'es plus obligé de regarder des trucs que tu trouves que c'est de la crise de la merde. Tu peux aller voir des gens. Et c'est l'avantage en comédie. Un comédie club, il y a quoi? Il y a entre 50 et 120 places dans un comédie club. S'il y a 50 personnes qui viennent, tu peux vivre. Tu peux besoin de remplir des 2000 trois fois par semaine, toi.
Mmh. Ouais.
Avec Internet, tu peux aussi dire ce que tu veux. Sur Twitter, tu développes. Sur Facebook, tu développes ta comédie. C'est pour ça que je trouve ça important pour que les humoristes fassent pas juste dire « Venez me voir en show. Je suis en show. Je suis en show à telle place. Je suis en show à tel endroit. Venez voir mon show. » Mais qui aussi fassent, entre guillemets, des gags, mais où montrent ce qu'ils sont, parce que c'est là que tu vas connecter avec eux. Si tu fais juste de la promo, on s'en fout après.
Toi aussi, t'es très sage hein, aujourd'hui. Tu es...
Ouais, c'est mon surnom. Non, c'est Dan le Sage.
Dan le Sage.
Hashtag le Sage. Toi, t'es dans la force. Hashtag Armirelli. Moi, je suis dans la sagesse. Hashtag le Sage.
Est-ce qu'on terminerait pas par une petite mauvaise nouvelle?
Ouais.
Juste pour dire deux? Ouais. Hein.
Ouais.
Ouais, mais your dad?
Ouais, j'ai vu.
Le Bob Saget féminin sera Meg Ryan, qui a compris de toute façon... que physiquement,
c'était fini.
Elle vaut plus rien.
C'était fini.
Ce qui est vraiment dommage parce que c'était une jolie femme.
Oui, mais en même temps, elle a 222 ans aussi.
Ben, ça n'empêche pas.
Ben, je veux dire, à 222 ans, tu ne demandes pas à quelqu'un d'être jolie ici?
Mais je lui demande rien, moi.
Ah, ok, je pensais que tu lui reprochais de plus être belle. Je disais, enfin, ça te ressemblait pas en plus.
C'est juste qu'elle s'est amochée, parce qu'elle, pour le coup, elle a fait la chirurgie, c'est ça que je veux dire.
Ok, oui, okay, c'est bon.
Ah non, moi, elle fait ce qu'elle veut, je m'en fous.
Bah oui, c'est ça, je dis, enfin, de où ça sort l'espèce de truc super miso tout d'un coup de...
À la vaisselle.
Ah, c'est ça, après, j'ai après 29 épisodes, putain, j'ai appris à connaître.
Donc, elle s'est dit, juste la voix, ce sera suffisant.
Antonini.
Non, arrête.
Misorelli.
Non, arrête. Hein.
Le gars vraiment sérieux. Non, déconne pas, quoi. Oui, non, avec la voix. Ouais. Quoi dire, à part de toute façon, on va faire ça pendant un bout de temps, puis après ça, ils vont remettre l'acteur, l'actrice à sa place pour la.
Greta Gerwig, la pauvre.
Ouais.
Oh, qu'est-ce que Greta Gerwig a été faire là-dedans?
Si vous voulez voir un bon truc avec Meg Ryan, par contre, c'est pas du tout ça, je me suis trompé. J'allais parler d'un documentaire qui était chouette et qui s'appelait My Date With, et c'est pas du tout Meg Ryan, c'est Drew Barrymore qui était là-dedans. Ah. Un vieux documentaire qui était une super chouette inspiration pour un projet. C'est un gars qui était super fan de Drew Barrymore, qui voulait la rencontrer et qui décide de se mettre un défi, de se donner genre 60 jours et genre $500 pour essayer de rencontrer Drew Barrymore.
T'en parlais déjà, je pense.
Ouais, il s'achète. En fait, il prend une cam qui va aller reporter après au magasin, tu vois, en gardant. Et il essaie de faire des vidéos, il essaie de la rencontrer avec les degrés de séparation et tout. Et il finit à la fin par réussir à avoir une date
avec. Elle a l'air sympa, Drew Barrymore.
À fond, elle a l'air super chouette. Et tu comprends aussi parce que tu dis, ah, c'est ça le charisme aussi. C'est pour ça qu'elle est dans autant de films, c'est pour ça que ça passe. Et le charisme, t'as jamais compris, je pense, c'est quoi le charisme tant que t'as pas vu quelqu'un que t'as trouvé drôle en live. Puis après ça, le regarder à la télé, puis trouver son naze.
Ben, si, toi. Touché en plein cœur.
Hashtag fin de l'épisode, vieux.
Tu veux t'arrêter là?
Ouais.
C'est bon? C'est dommage que tu termines tous les podcasts en pleurant chez toi après quand je pars. Ton frère me l'a dit.
Écoute, il y a deux options. C'est soit moi qui finis en pleurant et toi qui finis en pétant un plomb. T'as vu qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui a mis « J'ai hâte de voir l'épisode » ou « Enfin... »
Oui, ben merci, génial.
On va essayer de faire ça pour le final.
Je suis plus calme qu'avant. Hein.
Oui, non, t'es plus calme qu'avant. Je te ménage aussi. Ça se voit que c'est le bout. Là.
Moi non, je m'en fous, moi. Moi, je balance. J'en ai rien à foutre.
Hein, rebelle.
Semaine prochaine?
Ouais.
Merci beaucoup.
La semaine prochaine.
Au revoir.